connaissance. Immersion dans le cinéma sur Radio Shalom Bourgogne. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Cinéessence sur Radio Shalom Bourgogne, fréquence 97.1. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous plonger dans l'actualité cinéma avec Nuremberg, un film sorti en 2026 et qui est peut-être encore à l'affiche au moment où vous écoutez cette émission. Nuremberg, réalisé par James Vanderbilt, adapte le livre de Jack Hellhigh, Le nazi et le psychiatre. Le film raconte la relation complexe entre Douglas Kelley, psychiatre américain, et Hermann Göring, l'un des plus hauts dirigeants du régime nazi. À travers leurs échanges, le film met en lumière les mécanismes psychologiques, les stratégies de justification et les zones d'ombre des responsables nazis. Avant d'entrer dans le cœur du film, il faut rappeler le contexte. Le régime nazi a orchestré une politique d'extermination systématique dont la Shoah constitue le centre. Environ 6 millions de juifs ont été assassinés. À ces victimes s'ajoutent des millions d'autres personnes, civils soviétiques, prisonniers de guerre, Roms, personnes handicapées, opposants politiques. Ils sont morts de déportation, de famine, de travaux forcés ou exécutés lors de massacres. Face à ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les Alliés créent le Tribunal militaire international de Nuremberg pour établir, pour la première fois à une telle échelle, la responsabilité pénale de dirigeants politiques et militaires. Le choix de Nuremberg n'est pas anodin. D'un côté, c'est pratique. Le palais de justice et la prison attenante ont été relativement épargnés par les bombardements. De l'autre, c'est symbolique. Nuremberg était un haut lieu de la mise en scène du pouvoir nazi. C'est là que se tenaient les plus grands rassemblements du parti et que furent proclamées les lois raciales de 1935, fondement juridique de la persécution des juifs. Organiser le procès dans cette ville, c'est retourner contre le régime, l'un de ses propres théâtres de propagande, en transformant un espace de glorification totalitaire en lieu de justice internationale. Ainsi, pour débuter notre voyage dans l'univers de Nuremberg, écoutez Never Shall We Forget, composé par Brian Tyler. J'ai trouvé Nuremberg plutôt bon, même si sa réalisation reste très scolaire. Ce classicisme semble assumé, il rend le film accessible et lui donne une dimension de devoir de mémoire. Vanderbilt privilégie une mise en scène simple, presque pédagogique, centrée sur la parole. Peu de mouvements de caméra, des plans fixes et serrés qui enferment Kelley et Göring dans un huis clos psychologique. Ce sont les dialogues, les entretiens et les confrontations verbales qui racontent l'histoire. Le film dépeint la montée du nazisme, les lois de Nuremberg et les mécanismes juridiques complexes du procès. Cette parole omniprésente explique parfois un peu lourdement comment une idéologie a pu s'installer, se structurer et se normaliser. Quant à la photographie, elle est froide et désaturée, dominée par les gris et les bleus. Elle installe une atmosphère clinique, rien n'est esthétisé. La lumière plate et neutre refuse toute glorification visuelle, notamment de Göring. Cette palette terne rappelle les archives d'époque et renforce la dimension historique et morale du récit. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, Nuremberg ne se concentre pas sur le procès lui-même. Celui-ci n'apparaît qu'à la toute fin, de manière rapide et condensée. Vanderbilt préfère se focaliser sur la relation entre Douglas Kelley et Hermann Göring. Ce choix donne au film une direction inattendue mais cohérente. Il ne raconte pas l'événement historique dans sa globalité, il explore ce qui se joue dans l'intimité des entretiens, là où la parole devient un terrain de manipulation, de séduction et de confrontation morale. Mais ce choix a un prix. En se concentrant presque exclusivement sur cette relation, le film laisse en surface des aspects historiques pourtant essentiels. Les négociations entre alliés, la logistique du procès, les tensions diplomatiques. La perspective des autres nations, notamment la France et l'URSS, est inexistante. Certains personnages secondaires, introduits brièvement, ne sont pas développés et n'ont, à mon sens, pas vraiment d'intérêt. Le récit reste centré sur les Américains avec une présence britannique en arrière-plan. Rien de surprenant, mais cela réduit la portée internationale du sujet. Le film ne prétend pas l'exhaustivité, mais cette focalisation très américaine simplifie la complexité géopolitique du moment. Là où Nuremberg devient réellement troublant, c'est dans la manière dont il humanise Hermann Göring. Pendant une grande partie du film, les entretiens dévoilent un homme qui parle de sa femme, de sa fille, de ses failles, de ses motivations politiques. Il se montre vulnérable et humain. Dans l'espace clos de la prison, Göring et Kelley semblent presque égaux. Deux hommes face à face, deux intelligences qui se jaugent. Le spectateur, comme Kelley, se surprend parfois à vouloir croire Göring lorsqu'il affirme ne pas avoir eu connaissance des camps d'extermination. Cette ambiguïté est volontaire. Vanderbilt montre comment un criminel peut manipuler, séduire, réécrire son histoire et comment la proximité brouille les repères moraux. On marque une pause et on poursuit notre voyage musical avec le titre The Hunt. La musique de Brian Tyler est l'un des éléments les plus maîtrisés du film. Cordes, cuivres, motifs lents et graves, une tension continue, sans dramatisation excessive. Les thèmes servent de repères émotionnels et soulignent les moments clés du face-à-face entre Kelly et Göring. Le silence occupe une place essentielle dans Nuremberg. Il structure les scènes d'entretien entre Kelly et Göring et crée une tension continue. L'absence d'ambiance sonore met en avant les respirations, les hésitations et les inflexions de voix. Ce silence n'est jamais neutre, il enferme les personnages dans un espace clos où chaque mot devient une prise de pouvoir. Il oblige aussi le spectateur à écouter sans distance, sans échappatoire. Ce choix prépare la scène de la projection des images des camps. Vanderbilt ne cherche pas à dramatiser ce moment, il retire toute musique et tout effet sonore. Il ne reste que le bruit mécanique de la projection, avec sa texture sèche et irrégulière. Cette scène, où les archives réelles surgissent à l'écran, constitue le moment le plus puissant du film. Elle brise l'illusion, impose la vérité brute, refuse la mise en spectacle de l'horreur et laisse la vérité historique s'imposer d'elle-même. Elle rappelle que la parole de Göring n'est qu'un écran de fumée. Par ailleurs, Nuremberg interroge la frontière entre le bien et le mal. Hermann Göring rappelle que les Américains ne sont pas exempts de violence, évoquant notamment la bombe atomique qui a frappé Hiroshima et Nagasaki en 1945. Le film montre que la radicalisation, la violence idéologique, les engrenages politiques qui mènent à l'horreur ne sont jamais isolés dans le temps. En effet, le film met aussi en lumière une réalité contemporaine. Les idées qui ont nourri le nazisme n'appartiennent pas au passé, elles circulent encore, parfois visibles, parfois diffuses dans un monde où les discours de haine, les mouvements extrémistes et les régimes autoritaires regagnent du terrain. En montrant comment des sociétés entières ont laissé ces idéologies prospérer jusqu'au point de non-retour, le film agit comme un avertissement. La mémoire n'est pas un exercice figé, c'est une vigilance active. Le film pose également une question essentielle. Comment juger des criminels de guerre sans leur offrir une tribune? Göring utilise chaque entretien pour se justifier, se présenter comme un homme raisonnable, presque victime des circonstances. Le film montre le danger d'un procès où le criminel pourrait retourner la parole à son avantage. Il interroge aussi la manière dont on doit traiter ces hommes. Doivent-ils être considérés comme des êtres humains, même après avoir commis des crimes atroces? La scène de la pendaison, filmée sans triomphalisme, rappelle que la justice n'est pas un spectacle. Même le personnage juif du film n'y trouve aucun plaisir. Le film refuse la vengeance et c'est dans cette retenue que réside sa force morale. L'émotion la plus forte vient du sergent Howie. Son récit, celui d'un Allemand juif ayant fui les lois antisémites tandis que ses parents mouraient à Auschwitz, donne au film une profondeur humaine que les entretiens avec Göring ne peuvent offrir. La scène, sur un quai de gare, rappelle qu'un simple trajet en train a suffi à faire basculer le destin de millions de personnes. Elle rappelle que derrière les concepts juridiques se trouvent des vies brisées, des familles détruites et un processus génocidaire. Laissez-vous plonger dans l'ambiance du film Nuremberg et écoutez ce nouveau morceau intitulé Judgment. Thank you. Le film montre aussi une forme de mise en spectacle autour du procureur. Ce n'est pas du sensationnalisme, mais il y a une dimension spectaculaire dans sa manière d'occuper l'espace, d'être filmé, de s'adresser à la salle, de se présenter comme une figure morale du procès. On sent qu'il est conscient d'être observé, conscient de la portée historique de ses mots. Cette posture, renforcée par la mise en scène, contraste parfois avec la sobriété du reste du film, et rappelle que même dans un procès aussi grave, la justice peut devenir un espace performatif. Par ailleurs, la fin du film est d'une sobriété radicale. Écran noir, lumière éteinte, musique solennelle et lettres blanches qui défilent faisant illusion du nom des victimes de ces massacres. Le générique ne cherche pas à conclure, laisse le spectateur face au poids moral du procès et à ce qu'il révèle encore aujourd'hui. En outre, Nuremberg n'est pas un film parfait. Sa mise en scène est parfois trop sage, trop respectueuse de son sujet, pour oser de vraies ruptures formelles et de vraies tentatives de mise en scène. Vanderbilt privilégie la sobriété, sans doute pour préserver la dimension de devoir de mémoire. Malgré tout, quelques touches d'ironie apparaissent, comme cette scène où un soldat urine sur le blason nazi, preuve que le film n'est pas dépourvu de distance critique. Malgré ses limites, Nuremberg pose des questions difficiles, montre la complexité du mal et rappelle l'importance de la mémoire et de la justice. Il ne raconte pas tout, il ne montre pas tout, mais ce qu'il choisit de montrer est traité avec sérieux, rigueur et d'une réelle puissance émotionnelle. C'est un film nécessaire parce qu'il rappelle que comprendre n'est pas excuser, que juger est un acte moral délicat et que détourner le regard ne doit jamais être une solution. Pour finir notre voyage en beauté, écoutez le morceau intitulé « Épilogue », toujours composé par Brian Taylor et issu de la bande originale du film Nuremberg. Merci d'avoir écouté Cinescence sur Radio Shalom Bourgogne, fréquence 97.1. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Cinescence. Immersion dans le cinéma sur Radio Shalom Bourgogne.